spirituelle. La spiritualité.
La spiritualité.
Les médiums.
Les médiums.
La vie après la mort.
La vie après la mort.
Les auras.
Les auras.
Votre sixième sens.
Votre sixième sens.
La voyance.
La voyance.
Découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Enquête Spirituelle, comme tous les mercredis soirs, bien évidemment, sur les ondes de Max FM. Vous nous écoutez depuis internet, www.maxfm.be, également sur notre site internet, www.enquête-spirituelle.com, et le tout au pluriel. Comment ça va, Amy?
Mais ça va bien, et toi, Laurent?
Ah, ça va super bien, on est parti pour une nouvelle année. Les fêtes de fin d'année sont passées, et ce soir, on reçoit un invité au téléphone. Tu vas nous le présenter, il va se présenter après.
Oui, c'est Stéphane Cardino, que nous avions déjà reçu l'année dernière. Donc, de nouveau ce soir en ligne avec nous, depuis la Suisse, et ce sera pour la géobiologie.
Tout à fait, car la dernière fois, on avait parlé plutôt de la bioénergie, mais cette fois-ci, c'est de la géobiologie. Comment allez-vous, Stéphane?
Mais très bien.
Vous nous êtes donc en Suisse, vous n'êtes pas tout près, mais bon, Internet c'est Skype et on sait faire plein de choses maintenant. Vous allez nous parler un peu de vous, de votre parcours, parce que les gens qui vous écoutent maintenant n'ont pas forcément écouté l'émission précédente. D'ailleurs, on les invite à l'écouter, bien évidemment, pour ceux qui veulent découvrir la bioénergie. Mais ce soir, vous parlez de la géobiologie. Et tout d'abord, comment en êtes-vous arrivé à ces deux choses-là?
Alors, j'ai une formation d'architecte, donc de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et puis, j'ai travaillé 12 ans comme architecte. J'ai fait pas mal de constructions de toutes sortes, pas mal de logements, également des bâtiments scolaires, des bâtiments administratifs, et puis également un hôpital pour finir. Et donc, mais en même temps, j'étais toujours très intéressé par l'architecture sacrée. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à visiter des églises et des cathédrales un peu partout. Et évidemment qu'on ne peut pas aller dans ces lieux sans ressentir quelque chose. Donc, au final, je me suis dit, si je développais un peu mon ressenti, peut-être que ça permettrait aussi d'apporter quelque chose de plus, disons, dans ce que je savais faire, quoi, pour mon métier d'architecte. Et donc, petit à petit, à force de parcourir tous ces lieux, je me suis mis à la géobiologie. Voilà, enfin, c'est comme ça que c'est parti.
D'accord, parce que la géobiologie, c'est vrai que c'est un terme qui est assez large, mais qu'est-ce que c'est, justement?
Oui, alors, c'est vrai que, bon, au départ, je me suis beaucoup intéressé aux lieux sacrés, donc, des énergies qui se trouvaient dans les lieux sacrés, et puis... c'était pour mon intérêt personnel, en fait. C'était pas vraiment pour pratiquer de la géobiologie, parce que, en soi, la géobiologie, c'est tout ce qui traite de la problématique de l'environnement, énergétique. Donc, c'est quand même assez vaste, puisqu'il y a les énergies du lieu. On inclut aussi là-dedans toutes les pollutions électromagnétiques, également un peu les problématiques de matériaux de construction, de toxiques, des entités. Enfin, vous voyez, c'est assez vaste, quoi.
D'accord, parce que la géobiologie est souvent associée à la radiesthésie aussi. On pense souvent géobiologie avec les gens avec des baguettes, des sourciers, des choses comme ça. Est-ce que ça a vraiment un rapport avec ça pour vous?
Oui, tout à fait. J'utilise plus le pendule parce que j'ai développé d'autres capacités, mais j'utilise encore de temps en temps les baguettes parce que c'est vrai que c'est assez pratique dans le terrain. C'est juste des outils qui permettent en fait de détecter les phénomènes. La radiesthésie, c'est simplement de pouvoir détecter des vibrations, on va dire, au sens large, qui peuvent être de nature tout à fait physique, mais qui peuvent aussi être dans un domaine plus subtil.
D'accord. Parce que la géobiologie, justement, c'est une, on va dire, une science, une pseudo-science, parce que je ne pense pas, justement, que c'est reconnu par les scientifiques.
Oui, alors, voilà, comme toujours. Les pseudo-sciences d'aujourd'hui finissent par être des sciences demain, quoi. Oui. Tout simplement parce qu'en fait, pas mal de phénomènes font appel au ressenti. Et puis, évidemment qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'outils capables de mesurer ce genre de phénomène à part le corps humain. Donc évidemment, il y a un problème de reproductibilité des mesures et également de théorie là derrière qui permettrait d'expliquer ces différents phénomènes, quoi. C'est pour ça que on le considère pas de manière scientifique, mais on va dire que c'est plutôt un art. Je pense que le sens de art est plus, disons, qualifie mieux, disons, la géobiologie.
Et plus parlant, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec la géobiologie? Est-ce que ça sert, je pense, principalement pour l'habitat?
Oui, alors, ben c'est vrai que moi, j'étais tout le temps dans la nature, dans les lieux, voilà. Mon intérêt se portait plutôt sur les pierres de la région. On a pas mal de menhirs, de pierres sacrées, donc voilà. Et puis, au final, les gens m'ont dit, mais si tu ressens tout ça, est-ce que tu pourrais pas voir chez moi s'il y a pas quelque chose qui n'irait pas, quoi. Donc, au final, je me suis un petit peu décidé à aller chez les gens. Et donc, j'ai commencé comme ça. Donc, c'est vrai que la géobiologie, c'est surtout d'aller détecter des phénomènes. Donc, c'est une grande partie du métier, donc c'est la détection de toute une série de phénomènes, on aura peut-être l'occasion d'en parler après, quoi. Et également de tous les moyens de pouvoir corriger. Là aussi, ça pose le problème que souvent les manières de corriger sont pas, entre guillemets, scientifiques, quoi. Voilà.
D'accord, mais justement, parlons-en de ces phénomènes. Quel genre de phénomène peut-on détecter ou pratiquer avec la géobiologie?
Alors, on les classe en différentes catégories. Moi, généralement, je les regroupe en 3 ou 4 grandes classes de phénomènes. Donc, vous avez tout ce qui est lié à l'électromagnétisme. Donc, là-dedans, vous avez toutes les pollutions liées aux antennes relais, aux téléphones sans fil, tous les appareils que les gens ont chez eux, qui vont émettre soit des ondes électromagnétiques, soit des champs électriques, soit des champs magnétiques. Donc ça, c'est déjà un premier domaine. Ensuite, vous avez le deuxième domaine qui comprend toute la nature du sous-sol. Donc on va dire géologique. Donc là-dedans, vous avez essentiellement dans les perturbations principales, les courants d'eau souterrains, donc la circulation de l'eau sous terre, et puis également les failles, c'est-à-dire les différents mouvements de la roche sous terre. Voilà. Et puis, pour le reste, vous avez dans une troisième catégorie ce que j'appelle le tellurisme. Donc c'est toute une série de phénomènes comme les réseaux telluriques, enfin les fameux réseaux Hartmann et tout ça. Et puis également une dernière catégorie qui comprend un peu tout ce qui est d'ordre, on va dire, psychique. Donc tout ce qui va être lié aux émotions, aux pensées, aux mémoires des lieux. Voilà, en gros, pour tout ce qu'on qualifie un peu de paranormal. Ça fait 4 grandes catégories.
D'accord. Et les gens qui vous contactent, on va prendre un exemple concret, on vous contacte, vous Stéphane Cardino, pour un problème, entre guillemets, de géobiologie. On peut vous contacter pour quoi? Quel type d'exemple? Donnez un exemple.
Ouais, alors, les gens, souvent, ils me contactent... Maintenant un peu moins parce que je me suis concentré sur les problématiques des terrains en collaboration avec les architectes. Donc j'ai quand même formé quelques milliers de personnes en 14 ans. Et donc je leur laisse un peu le soin de faire ce genre de choses, quoi. Mais disons que les demandes les plus courantes, c'est parce que les gens dorment mal. Voilà. Bon, il y a beaucoup de raisons de mal dormir, ça, c'est évident. Mais un certain nombre de raisons sont liées en fait à des nuisances de toutes sortes, quoi. Et donc, moi, en général, je préfère pas trop savoir ce que les gens, ce qui se passe chez eux. Je préfère le découvrir par moi-même. Donc, j'essaye de détecter un peu tout ce que je peux dans les 4 grandes catégories qu'on vient de voir. Et puis après, j'essaye de me faire un peu une idée. C'est vrai que les gens, souvent, ils remarquent que quand ils sont chez eux, ils dorment mal, et quand ils sont à l'extérieur, ils dorment mieux. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quand même quelque chose chez eux qui les perturbe. Voilà, donc après il s'agit de déterminer qu'est-ce que ça pourrait être. Et une fois qu'on a déterminé le phénomène, en général, il y a un certain nombre de symptômes. Donc il y a des symptômes spécifiques pour chaque type de phénomène. Par exemple, si c'est un courant d'eau, les gens n'auront pas les mêmes symptômes, quoi, que si c'est une faille. Les courants d'eau, c'est beaucoup de fatigue, des problèmes émotionnels, tandis que les failles, ça va plutôt être problème mental, psychologique, ça va un peu être de cet ordre-là, quoi.
D'accord. Et tous ces problèmes-là, on les rencontre partout, dans toutes les maisons, dans toutes les habitations, et peut-être même aussi dans les bâtiments publics.
Alors, écoutez, moi, j'ai fait... j'ai pas le décompte total du nombre d'expertises que j'ai effectuées jusqu'à présent, mais c'est à peu près 500, quoi. Je dirais pour un tiers, c'est quand même des terrains. Donc là, on pourra peut-être en parler, mais c'est un petit peu différent. Mais quand il s'agit de maisons, donc j'ai remarqué que la moitié des gens me demandaient juste pour savoir ce qu'il y avait chez eux, parce qu'ils venaient d'emménager, parce qu'ils avaient construit la maison. Donc voilà, c'est un peu pour connaître leur environnement et être sûr que tout va bien. Voilà, donc c'est un peu plus, on va dire, prévention. Voilà. Et puis la moitié des gens, c'est parce que ça va pas. Donc voilà, donc là, il faut venir et puis regarder ce qui pourrait les gêner, quoi. Mais des fois, c'est même pas ça, quoi. Les gens, ils dorment mal pour des raisons tout autres qui peuvent être liées à la famille, au travail, enfin, voilà, quoi.
D'accord, très bien. Avant d'approfondir tout ça, on marque une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission Enquête spirituelle. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez votre spiritualité.
De retour dans cette émission Enquête spirituelle ce soir avec notre invité Stéphane Cardineau. Si vous avez des questions à lui poser, mais ça se passe par mail, Amy va vous rappeler les coordonnées pour nous joindre, bien évidemment.
Alors, par email info@enquete-spirituelle.com ou via notre site internet www.enquete-spirituelle.com dans la rubrique Contact et également sur la page Facebook Enquête spirituelle.
Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure avec notre invité donc de tout ce qui touchait au terrain. Que peut-on faire sur le terrain justement par rapport à la géobiologie?
Voilà, donc... C'est vrai que maintenant, je suis plutôt spécialisé dans l'analyse des terrains. Donc, je travaille plutôt en collaboration, soit avec la personne qui a acheté le terrain, soit avec l'architecte. Et donc, c'est plutôt ce que j'appelle un travail en amont, c'est-à-dire de pouvoir déterminer tout ce qu'il y a sur ce terrain avant d'établir le projet. Donc, ça, c'est l'idéal parce qu'on peut exactement définir les emplacements qui sont les plus favorables pour disposer la maison.
D'accord.
Ou les maisons quand il s'agit de lotissement. Et ça va comprendre toujours les quatre volets habituels. Donc, d'une part, les pollutions électromagnétiques. Donc de mesurer l'incidence de toutes les nuisances qu'il pourrait y avoir dans les environs, surtout les antennes relais. C'est vrai que dans les terrains, ben, c'est un petit peu ce qui rayonne tout autour.
Ouais.
Voilà. Mais des fois, il y a aussi les lignes de haute tension ou les lignes des voies de chemin de fer qui sont souvent quand même assez puissantes. Et voilà, donc ça, c'est une première partie. Ceci est mesuré avec des appareils électroniques étalonnés, précis. Voilà, il y a des normes. Donc les normes sont pas des normes de santé comme on a habituellement, c'est des normes de bien-être. Donc la différence entre la santé et le bien-être, c'est que la santé, c'est que si vous dépassez les normes de santé, vous tombez malade, quoi. Donc vous voyez, il y a quand même une plage entre le bien-être et la santé. Et donc c'est des normes allemandes essentiellement qui ont été définies empiriquement, en se basant sur simplement les mesures effectuées et en demandant aux gens s'ils se sentaient bien ou pas bien. Voilà. Donc, en général, je trouve que c'est très bien fait. Si on est vraiment dans les normes de bien-être, en général, il n'y a vraiment pas de problème de particulier. Donc, ça, c'est pour le volet électromagnétique. Ensuite, je passe à tout ce qui est lié à la nature du sous-sol. Donc là, je vais chercher les failles et les courants d'eau. J'ai deux manières de faire. D'une part avec justement la bioénergie, donc la capacité à ressentir à l'intérieur du corps les phénomènes. Donc je fais généralement une première recherche dans le terrain avec ça, ce qui permet d'aller un peu plus vite parce que ça m'arrive de faire des terrains quand même de plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. Donc c'est juste impossible à faire avec un appareil, ce serait beaucoup trop long. D'abord avec le ressenti, et ensuite j'ai des appareils qui permettent de mesurer et de pouvoir démontrer que la présence de la faille ou du courant d'eau dans le sous-sol. Donc là, je vais définir la position des failles. Je vais les dessiner très précisément sur un plan. Je vais donner aussi la zone d'influence. C'est-à-dire que c'est pas bon d'être à la surface, mais aussi c'est pas bon d'être trop proche de la perturbation. Et je vais aussi définir l'intensité du phénomène, puisque en général, plus il est intense, plus les gens se plaignent rapidement ou ont des problèmes plus importants, voire même des problèmes de santé. Donc ça, c'est pour les courants d'eau et les failles. J'essaye de donner aussi les profondeurs, ce qui permet de détecter toutes les arrivées d'eau sur le terrain. Donc ça, c'est très pratique pour l'architecte quand ils vont entreprendre les fouilles, de savoir par où l'eau entre sur le terrain, de pouvoir tout de suite drainer au bon endroit, faire des puits, des captages où il faut. Voilà, je cherche aussi les sources, bien entendu, parce que je les trouve de la même manière. Et les nappes phréatiques, les profondeurs des nappes phréatiques, exactement. Voilà, on peut être précis jusqu'à 10 cm près sur la profondeur des nappes phréatiques. Ça, c'est donc le volet. Et puis les gros rochers enterrés. Voilà, chez nous on a un peu une région où les glaciers ont passé par là, où il y a des rochers, donc des gros blocs erratiques, et donc c'est toujours bon à savoir s'il y a un gros bloc de 3-4 tonnes qui traîne dans le terrain, parce que ça coûte assez cher s'il faut le retirer.
D'accord, est-ce que c'est un élément perturbateur, un rocher justement ?
Ouais, ça fait une perturbation magnétique à la surface.
D'accord.
Donc c'est mesurable physiquement, bien que ce soit assez faible, mais c'est vrai qu'il y a une incidence sur la santé, parce que d'être sur le rocher, ça ne gêne pas, mais si votre corps est à cheval entre sur le rocher et pas sur le rocher, alors là, ça crée une différence, et le corps il réagit à cette différence.
D'accord.
Dans tous les phénomènes liés au sous-sol, il ne faut pas être sur le phénomène en général, mais surtout, il ne faut pas être à cheval sur le phénomène. Donc, vous voyez, si vous êtes en parallèle d'une faille, ça pose pas de problème, mais si la faille traverse votre corps, alors là, ça crée une différence entre le haut et le bas du corps, et là, en général, ça se passe un peu moins bien.
D'accord.
Tout ce qui est tellurique, on va dire géomagnétique, parce qu'en fait, ces phénomènes sont magnétiques, donc ont une influence sur le champ magnétique terrestre, et puis c'est ça qu'on peut mesurer avec les appareils. Donc ça, c'est le deuxième gros morceau. Le troisième, ça va être tout ce qui est lié aux lignes telluriques. Voilà. L'intérêt des lignes telluriques, c'est pas de répertorier les nœuds et tout ça, c'est surtout de voir la trame générale du réseau Hartmann. Et ça nous donne une très bonne idée de toutes les perturbations du sous-sol, de leur zone d'influence, et également... ça nous donne une idée sur l'orientation en fait des énergies du lieu. Donc ça peut conditionner aussi la position de la maison, enfin pas la position mais l'orientation de la maison. En général, les lignes sont parallèles aux courbes de niveau. Donc l'idéal c'est de construire quand même parallèle aux courbes de niveau ou parallèle au réseau tellurique. Donc ça, c'est le troisième morceau. Et puis le dernier, qui est généralement assez rapide, parce que souvent sur les terrains, il n'y a pas grand-chose, mais des fois, ça arrive qu'on soit confronté à des terrains qui ont été pollués chimiquement, où il y a eu... Des fois même, je suis tombé sur des terrains où il y a eu des lieux sacrés,
oui.
Période celtique, par exemple. Donc qu'on a fouillé, qu'on a trouvé les tombes, tout ça, quoi. Donc, et puis aussi des fois des anciens cimetières, enfin vous voyez tout ce qui pourrait traîner dans ce terrain, qui voilà quoi. Mais ça c'est quand même pas fréquent, heureusement.
D'accord. Et vous établissez toujours dans cet ordre-là ? Donc d'abord électromagnétique, ensuite le sous-sol et ainsi de suite ? Ou c'est pas forcément important ?
Alors oui, parce que j'ai un J'ai toujours le même protocole, je fais toujours les choses dans le même ordre. Ça permet surtout que quand on mesure les choses au niveau électromagnétique, pas trop, mais au niveau géomagnétique, c'est clair qu'on va beaucoup parcourir le terrain. Et donc, le temps qu'on fasse les mesures en parcourant le terrain, on a aussi le temps de s'imprégner des choses. Donc, ça facilite les recherches pour les domaines plus subtils.
D'accord. Et vous parliez de machines tout à l'heure que vous utilisez. Vous pouvez, par exemple, en présenter une, dire comment ça fonctionne ?
Alors, j'ai plusieurs appareils. Mm-hmm. Le premier est un appareil, c'est un mesureur de champs électromagnétiques. Donc, c'est un appareil avec une antenne qui va mesurer des gammes de fréquences. En général, je mesure entre 300 MHz jusqu'à 3,3 GHz. Donc, avec ça, on a déjà à peu près l'ensemble des appareils habituels que l'on trouve, qui émettent des ondes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du logement. Et le deuxième appareil, c'est un appareil qui combine en fait la mesure des champs magnétiques et des champs électriques. Donc là, on va pouvoir déterminer, disons, les nuisances liées aux lignes de haute tension, aux transformateurs de quartier, aux lignes enterrées dans le sol, et puis les voies de chemin de fer également. Et un troisième appareil qui va mesurer tout ce qui est géomagnétique. Donc, on appelle ça magnétostatique, donc c'est-à-dire les différences de champs magnétiques. C'est pas la valeur qu'il y a dans le lieu, c'est la différence quand on se déplace. Oui, c'est un peu spécial. C'est-à-dire qu'il faut marcher avec l'appareil et noter les différences au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, on aura une idée des perturbations du sous-sol. Voilà, ça, c'est les trois appareils que j'utilise principalement. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits appareils annexes pour déterminer les ponts de froid dans les maisons, parce que des fois, on me fait appel aussi pour savoir des canalisations qui ont lâché dans des murs. Donc là, j'ai plusieurs techniques aussi et d'appareils qui permettent de détecter d'autres choses, d'humidité, de température, enfin voilà quoi.
D'accord, mais je suppose aussi que vous avez une certaine intuition en plus.
Oui, alors c'est-à-dire que si je dois chercher quelque chose, généralement je commence par le ressenti. J'ai la chance d'être clairvoyant, c'est-à-dire qu'en général, sur un terrain, je vois les choses, même ce qui est dans le sous-sol. Alors ça me permet d'aller directement à l'endroit où il y a le phénomène, et ensuite de sortir l'appareil et de mesurer la perturbation pour avoir une valeur scientifique, quoi, reconnue. D'accord. Voilà, mais c'est vrai que souvent les terrains sont quand même assez grands, ça fait souvent plusieurs milliers ou dizaines de milliers de mètres carrés, et mesurer avec des appareils, c'est très très long, quoi. Parce qu'il faut se déplacer tous les mètres, prendre des mesures. Alors s'il faut faire ça sur tout un terrain, c'est juste impossible, quoi. Donc il y a toujours d'abord le ressenti et ensuite la mesure des appareils pour vérifier. Moi, j'ai quand même une formation scientifique, donc j'aime bien valider les résultats. Et puis, les gens qui font appel à moi, c'est aussi beaucoup d'architectes, donc c'est clair qu'ils ont aussi une formation, disons, plus liée à la science, quoi.
D'accord, très bien. Avant de poursuivre, on se retrouve juste après une pause musicale pour la suite de cette émission Enquête spirituelle. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
De retour dans cette émission Enquête spirituelle avec notre invité ce soir, Stéphane Cardino, qui nous parle de la géobiologie, mais surtout de son intuition et de ses ressentis pour accéder au terrain et avoir des mesures un peu plus précises. Alors dites-nous-en un petit peu plus.
Voilà, donc à part les appareils, mais comme je vous l'ai dit, ça prend toujours beaucoup de temps pour mesurer, noter, et voilà. Donc j'ai développé plutôt le ressenti.
Ça vous est venu comment ?
Bon, ça c'est toujours à travers les lieux sacrés où petit à petit j'ai commencé à ressentir des choses dans le corps et je me suis dit qu'on pouvait s'étalonner en fait sur ces différents systèmes énergétiques. Donc dans les lieux sacrés, l'avantage c'est que les phénomènes sont souvent assez bien localisés. Donc on peut s'étalonner sur le système et une fois qu'on est bien étalonné, c'est ce qui prend souvent le plus de temps pour les gens qui commencent à la géobiologie, Et ressentir, c'est assez facile, en fait. Mais de savoir ce que l'on a ressenti, ça, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, donc les gens, moi j'enseigne déjà depuis quand même, ça doit faire 14 ans la géobiologie, donc je vois bien que c'est pas trop difficile, les gens assez rapidement, tout le monde arrive à bien sentir des phénomènes, mais quand je leur demande qu'est-ce que c'est, alors là évidemment que ça demande beaucoup plus d'entraînement, je dis en général, bon, il faut pas désespérer, mais c'est quand même 2-3 ans d'entraînement pour pouvoir affiner et pouvoir déterminer ce que l'on a ressenti. Voilà. Donc, alors ça demande quand même beaucoup d'entraînement, de s'étalonner régulièrement sur les systèmes pour pouvoir ensuite les reconnaître. Donc, il y a tout un catalogue de phénomènes et ensuite, chaque phénomène va agir dans le corps d'une manière spécifique. Donc, une fois qu'on a réussi à ressentir dans le corps le parcours énergétique, on peut dire, alors, c'est tel phénomène. En gros, c'est comme si vous aviez une espèce de signature vibratoire. Voilà. Donc, vous avez des phénomènes qui sont rouge, orange, bleu, jaune. Voilà, c'est, tout est en couleur, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, on va associer les couleurs et, aux vibrations. Et donc, on va codifier, en fait, toutes les vibrations de tous les phénomènes sur un système de couleurs. Et le corps va servir de capteur, en fait, à travers les chakras. Et donc, chaque chakra va commencer à réagir. Donc, ça demande de bien développer le ressenti intérieur pour sentir exactement les zones du corps où l'énergie se concentre ou où l'énergie diminue. Donc, vous avez toujours deux possibilités. Soit il y a une concentration, soit il y a une diminution d'énergie sur un point. J'ai travaillé avec pas mal de machines quantiques qui permettent aussi de visualiser ça à l'intérieur du corps. Donc c'est pas mal parce que ça permet de bien entraîner les perceptions et de s'assurer qu'on ressent bien les choses. Donc il y a quand même des machines qui mesurent ça, voilà. Et donc une fois qu'on a, par exemple, je prends un exemple, hein, c'est plus simple. Vous trouvez une ligne tellurique. Donc des lignes de réseau tellurique, il y en a de toutes sortes. Chaque ligne va correspondre à un métal et donc la vibration dégagée par le métal. Et la vibration dégagée par le métal correspond généralement à l'oxyde du métal. Si je prends le cuivre il va devenir vert une fois qu'il est oxydé. Donc le cuivre est orange, mais oxydé il est vert. Donc quand on sent dans le corps la zone qui va correspondre aux intestins et la zone qui correspond au cœur, donc ça veut dire la partie orange et la partie verte, alors on peut dire qu'on est sur une ligne du réseau cuivre. Voilà, c'est le réseau palme. Donc en fait, tout est basé sur cette technique-là de ressenti intérieur. Et puis, la deuxième méthode, c'est le ressenti que j'appelle extérieur. Donc nos cellules vont émettre des ondes stationnaires et on va pouvoir ressentir les ondes stationnaires. Alors, c'est pas évident à comprendre, mais en gros, chaque perturbation du sous-sol aura tendance à décaler notre champ d'énergie sur la gauche. Donc, si on arrive à sentir le décalage sur la gauche, j'ai même un petit instrument qui permet de l'entendre. Donc, on entend si l'axe du corps est bien dans l'axe, s'il est décalé par rapport à l'axe, alors on sait qu'il y a une perturbation dans le sous-sol. Et donc, il suffit de cartographier toutes les zones où le champ d'énergie se décale sur la gauche. Voilà, donc ça, c'est une méthode qui... Bon, là, il faut mesurer, soit on se déplace et on ressent le moment où on est décalé, soit on doit se mesurer tous les 2-3 mètres, voilà. Et donc, on obtient une cartographie du terrain avec tous les décalages du champ d'énergie. Et en général, vous avez le tracé de tous les phénomènes du sous-sol avec cette méthode.
D'accord. C'est quelque chose que vous avez appris par vous-même ?
Alors, c'est une méthode que j'ai inventée à quelque part, quoi. C'est moi qui ai inventé cette méthode.
D'accord. Et une petite question comme ça, mais qui me vient. Est-ce que, quand vous faites ça, est-ce que vous devez vous protéger avant ou après? Parce que, comme vous dites, si vous décalez chaque fois votre centre de gravité ou votre aura ou votre centre énergétique, peu importe le nom, sur la gauche ou sur la droite, à force, ça doit peut-être jouer un peu sur vous directement.
Oui. Alors, c'est clair que, on l'a mesuré avec des machines, on voit vraiment que le champ d'énergie se déplace. Donc, j'ai une machine qui s'appelle GDV, qui mesure en fait les photons qui sont dégagés par le corps. Donc, quand il y a un décalage sur la gauche, la partie droite du corps rayonne moins et il y a plus de rayonnement sur la partie gauche. Donc, je veux dire, c'est bien une réalité physique à l'intérieur du corps. Donc, c'est clair que tous ces transferts d'énergie gauche-droite, ça fatigue. Donc, il n'y a pas de protection, parce que si vous protégez, vous sentez plus rien. Donc, ça, c'est ridicule. Donc, il faut pas se protéger. Donc, il faut laisser le corps pouvoir réagir à gauche, à droite, en haut, en bas. Et puis, voilà. Mais c'est clair que si on doit faire un terrain, qu'on passe des heures sur des courants d'eau et des failles, évidemment que ça demande d'avoir une bonne énergie au départ, pour pouvoir quand même pas trop en souffrir, parce qu'on perd de l'énergie en faisant ça. Et puis, surtout une très grande capacité de récupération après. C'est-à-dire être perturbé, c'est une chose, mais il faut pas rester perturbé pendant des heures. Il faut pas récupérer très rapidement. Et donc, ça demande une certaine fluidité énergétique pour pouvoir, disons, pas trop souffrir, quoi. Mais c'est vrai que, en général, quand on fait une expertise, au bout de 3-4 heures, quand même, ça devient pénible, quoi. Moi, je fais au maximum 7 heures de suite, quoi.
D'accord, c'est déjà pas mal.
Oui, je vois dans mes stagiaires, je peux leur demander en gros 1h30 par jour, 1h à 1h30 par jour. Mmh. Au-delà de ça, ils seraient dans un tel état que, bon, le lendemain, ça devient difficile de travailler, quoi.
Ok. On parle beaucoup aussi, dans ce que vous faites dans la géobiologie, c'est des courants telluriques, des cheminées cosmotelluriques, des vortex. Qu'est-ce que c'est tout ça ?
Voilà, alors ça c'est justement les différents phénomènes que j'appelle phénomènes telluriques. Donc, ils ne sont pas mesurables d'une manière électromagnétique, dans le sens que ce n'est ni électromagnétique, ni magnétique, ni électrique. Mais par contre, on peut les mesurer avec deux techniques. D'une part, une technique qui est liée à la bioénergie. Donc, quand vous êtes sur un de ces phénomènes, il y a des actions sur le corps qu'on peut visualiser avec des machines. Ou également le son. Donc, et le son ne va pas se propager de la même manière dans l'espace quand il est perturbé par ces phénomènes. Alors, si on prend les cheminées cosmotelluriques, c'est un phénomène qui est circulaire. En gros, c'est comme si vous avez un oignon, vous coupez un oignon et vous avez les différents anneaux. Donc voilà, ça c'est un phénomène circulaire. Les courants telluriques sont des phénomènes qui font plutôt des vagues. Donc ça fait des petites vagues sur le terrain. Les lignes telluriques, on peut dire que ça fait des quadrillages. Donc vous voyez, ça a toujours une forme géométrique. Et les vortex, c'est des spirales. Donc vous avez en gros les phénomènes qui sont des quadrillages, des vagues, des anneaux, enfin des cercles et des spirales.
D'accord. Et c'est souvent là-dessus qu'il y a des lieux sacrés en général.
Alors dans les lieux sacrés, la différence par rapport à, disons, un terrain normal, tous ces phénomènes se retrouvent un peu partout. Hein. Il y en a partout. Mais dans les lieux sacrés, c'est des endroits où, disons, il y a une concentration de ces phénomènes, souvent disposés d'une manière précise. C'est-à-dire que quand vous déplacez dans le lieu, dans le bâtiment par exemple, vous passez par ces endroits spécifiques. Et puis, c'est surtout parce que dans les lieux sacrés, les phénomènes ont, disons, une vibration plus intéressante, quoi. Dans la nature, c'est un peu réparti d'une manière très aléatoire. Dans les lieux, c'est géométrique. Et surtout, il y a une concentration. Donc, vous avez plus d'effets.
D'accord, c'est vrai qu'il y a plein de choses par rapport à ça, des choses qu'on ne sait pas forcément. Une question qui me vient justement, vous parlez de vos ressentis, de votre clairvoyance. Est-ce que les gens sont forcément au courant que vous avez ce ressenti-là, ou vous allez travailler là-dessus en toute transparence ?
Ah, moi je l'annonce très clairement, c'est déjà aussi sur mon site internet, donc oui, je précise bien tout ce que je fais et que quand même une grande partie est liée au ressenti, c'est clair, ou à la clairvoyance, quoi.
Peut-être qu'en Suisse vous êtes aussi plus ouvert, non ? Par rapport à la France ou à la Belgique, nous on parlerait peut-être pas de ça directement à des architectes ou des gens plus scientifiques. Peut-être que chez vous c'est plus facile.
Écoutez, moi je suis pas mal contacté par des architectes, donc bon, c'est surtout déjà parce que moi j'ai une formation d'architecte, donc c'est clair que ayant fait l'école polytechnique, c'est sûr qu'en général on se dit bon bah c'est quand même quelqu'un de sérieux qui a quand même construit pas mal de choses et voilà quoi. Donc ça ajoute quand même un certain crédit à mon travail. Et puis, il y a quand même les appareils, Donc, ils aiment bien avoir des mesures, c'est clair. Donc, mais je ne cache pas que, de toute façon, c'est le ressenti qui est le plus utilisé dans les expertises. Je prends un terrain. Un terrain, globalement, je prends 45 minutes pour faire le terrain pour une villa, pour tout analyser ce qu'il y a sur place. En gros, c'est 6 à 8 minutes pour les problèmes électromagnétiques. Tout le reste, c'est de la détection des phénomènes du sous-sol et du ressenti. Et puis après, à cela s'ajoute encore une demi-heure pour tout expliquer. Donc vous voyez que la partie appareil, en fait, elle est assez rapidement effectuée, quoi.
D'accord. Ça permet de voir justement concrètement ce que vous faites sur le terrain. Ça ne sert que pour des constructions de maisons ou ça sert aussi pour autre chose ?
Alors, c'est vrai que là, actuellement, je ne fais pas que pour du logement. Donc, j'ai des demandes pour d'autres choses, des pavillons pour la méditation, des endroits pour des caves pour stocker le vin. Enfin, j'ai plein de demandes un peu spéciales, quoi.
D'accord. On vous contacte aussi peut-être pour des bâtiments publics, je sais pas, des salles de spectacle, des cinémas, ou alors c'est plus vraiment de l'ordre de personnes particulières.
Si, il y a aussi, je dirais plutôt les hôtels. Les centres de bien-être, tous les wellness et tout ça. Donc, des fois dans les commerces aussi. Enfin, c'est assez vaste, quoi. J'ai pas de. A priori, des bureaux. Il y a des bâtiments publics. Des écoles aussi, j'ai fait des écoles. Ouais. Bon, alors, soit c'est la demande express de l'architecte, pour son intérêt personnel. Parce que c'est vrai, de savoir des choses avant de construire, c'est quand même intéressant. Ça évite, disons, certains surcoûts et de surprises lors de quand on creuse dans le terrain. Et puis, c'était plutôt pour une question d'ambiance, quoi, pour s'assurer que tout va bien, que l'ambiance sera agréable dans les bureaux, quoi. Donc ça, c'est plutôt des demandes de la part de sociétés dont les patrons sont quand même assez ouverts, quoi.
Tout à fait, on l'imagine bien. Bien, je vous remercie en tout cas d'avoir été parmi nous. L'émission touche à sa fin tout doucement. Juste avant de se quitter, je suppose qu'il y a des gens qui voudront vous contacter. Comment on peut vous trouver ?
Alors, principalement par le site internet, donc www.geniedulieu.ch, geniedulieu tout appendu sans accent. Voilà, ça c'est le plus simple. Il y a pas mal de dossiers aussi sur mon site, donc toutes les explications sur la géobiologie, il y a un dossier complet sur une maison qui montre toute la démarche depuis l'analyse du terrain jusqu'au choix des matériaux, des problèmes électromagnétiques, telluriques, enfin tout est expliqué en détail, donc je pense que c'est le plus simple.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. On invite tous les auditeurs à se rendre sur le site, donc www.geniedulieu.ch, et j'imagine qu'on peut vous contacter directement via ce site.
Parfait.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane Cardino. Merci beaucoup Amy. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine.
Oui, bien sûr. Merci à toi Laurent.
Pour une nouvelle émission, et on mettra le lien de notre invité de ce soir sur notre site internet, donc www.enquête-spirituelle.com. On vous dit bye bye, à la semaine prochaine, Amy.
À la semaine prochaine.
À très bientôt, au revoir.